Chapitre 3. Qu'est-ce à quoi ? Qui vive ? Fit le drasse, connaît l'oreille tendue, les yeux écarquillés dans les ténèbres. Des pas couraient par tout l'hôtel avec des claquements de portes, des souffles haletants, des cris « Dépêchez-vous !» tandis qu'au dehors sonnaient comme des appels de trompe et que de brusques montées de flammes s'illuminaient vitres et rideaux. « Oh, le feu !» Et d'un bond, il fut hors du lit, chaussé, vêtu, dégringolant dans l'escalier où le gaz brûlait encore et que descendait tout un essaim bruissant de misses coiffées à la hâte, serrées dans des châles verts, des fichus de laine rouge, tout ce qui leur était tombé sous la main en se levant. Tartarin, pour se réconforter lui-même et rassurer ses demoiselles, criait en se précipitant et bousculant tout le monde « Du sang-froid, du sang-froid !» avec une voix de goéland, blanche et perdue, une de ces voix, comme on en a dans les rêves, à donner la chair de poule aux plus braves. Et comprenez-vous, ces petites misses qui riaient en le regardant semblaient le trouver très drôle. On n'a aucune notion du danger à cet âge. Heureusement, le vieux diplomate venait derrière elle, très sommairement vêtu d'un pardessus que dépassaient des caleçons blancs et des bouts de cordonnets. « Enfin, voilà un homme !» Et Tartarin courut à lui en agitant les bras. « Ah, oh, monsieur le baron, quel malheur! Savez-vous quelque chose? Où est-ce? Comment cela a-t-il pris ?»« Mais qui, quoi ?» bégayait le baron ahuri, sans comprendre. « Mais le feu !»« Quel feu ?» Le pauvre homme avait une mine si extraordinairement déprimée et stupide que Tartarin l'abandonna et s'élança dehors brusquement pour organiser les secours. « Des secours !» répétait le baronnet après lui, cinq ou six garçons de salle qui dormaient debout dans l'antichambre, s'entre-regardèrent absolument égarés. « Des secours !» Au premier pas dehors, Tartarin s'aperçut de son erreur. Pas le moindre incendie. Un froid de loup, la nuit profonde à peine éclaircie, des torches de résine qu'on agitait çà et là et qui faisaient sur la neige de grandes traces sanglantes. Au bas du perron, un joueur de cor des Alpes mugissait sa plainte modulée, un monotone ranse des vaches à trois notes, avec lequel il est d'usage au Rigiculum de réveiller les adorateurs du soleil et de leur annoncer la prochaine apparition de l'astre. On prétend qu'il se monte parfois à son premier réveil à la pointe extrême de la montagne, derrière l'autel. Pour s'orienter, Tartarin n'eut qu'à suivre le long éclat de rire des misses qui passaient près de lui. Mais il allait plus lentement encore, plein de sommeil et les jambes lourdes de ses 6 heures d'ascension. « C'est vous, Manilov ?» dit tout à coup dans l'ombre une voix claire, une voix de femme. « Oh, aidez-moi donc, j'ai perdu mon soulier !» Il reconnut le gazouillis étranger de sa petite voisine de table, dont il cherchait la fine silhouette dans le pâle reflet blanc montant du sol. « Non, ce n'est pas Manilov, mademoiselle, mais si je puis vous être utile... » Elle eut un petit cri de surprise et de peur, un geste de recul que Tartarin n'aperçut pas, déjà penché, tâtant l'herbe rase et craquant autour de lui. « T'es pardi, le voilà » s'écria-t-il joyeusement. Il secoua la fine chaussure que la neige poudrait à frimas, mit un genou à terre, dans le froid et l'humide, de la façon la plus galante, et demanda pour récompense l'honneur de chausser Cendrillon. Celle-ci, plus farouche que dans le conte, répondit par un non très sec et sautillait, essayant de réintégrer son bas de soie dans le soulier mordoré. Mais elle n'y serait jamais parvenue sans l'aide du héros, tout ému de sentir une minute cette main mignonne effleurer son épaule. « Vous avez de bons yeux !» ajouta-t-elle en manière de remerciement, pendant qu'ils marchaient à tâtons côte à côte. « À l'habitude de l'affût, mademoiselle. Ah, vous êtes chasseur !» Elle dit cela avec un accent railleur, incrédule. Tartarin n'aurait eu qu'à se nommer pour la convaincre, mais Comme tous les porteurs de noms illustres, il gardait une discrétion, une coquetterie, et, voulant graduer la surprise, « Je suis chasseur, effectivement !» Elle continua sur le même ton d'ironie. « Et quel gibier chassez-vous donc de préférence ?»« Oh, les grands carnassiers, les grands fauves !» fit Tartarin, croyant l'éblouir. « En trouvez-vous beaucoup sur le Rigi ?»« Toujours galant et à la riposte, le Tarasconnais allait répondre que sur le Rigi, il n'avait rencontré que des gazelles, quand sa réplique fut coupée par l'approche de deux ombres qui appelaient « Sonia, Sonia !»« J'y vais !» dit-elle. Et se tournant vers Tartarin, dont les yeux, faits à l'obscurité, distinguaient sa pâle et jolie figure, sous une mantille en manola, elle ajouta, sérieux cette fois, « Vous faites une chasse dangereuse, mon bonhomme, prenez-y garde d'y laisser vos os. » Et tout de suite, elle disparut dans le noir avec ses compagnons. Plus tard, l'intonation menaçante qui soulignait ses paroles devait troubler l'imagination du méridional. Mais ici, il fut seulement vexé de ce mot de bonhomme, jeté à son embonpoint grisonnant, et du brusque départ de la jeune fille juste au moment où il allait se nommer et jouir de sa stupéfaction. Il fit quelques pas dans la direction où le groupe s'éloignait, entendit une rumeur confuse, les toux, les éternuements des touristes attroupés qui attendaient avec impatience le lever du soleil. Quelques-uns des plus braves grimpaient sur un petit belvédère dont les montants ouatés de neige se distinguaient en blanc dans la nuit finissante. Une lueur commençait à éclaircir l'Orient, saluée d'un nouvel appel de cor des Alpes et de ce « Ah !» soulagé que provoque au théâtre le troisième coup pour lever le rideau. Mince comme la fente d'un couvercle, elle s'étendait, cette lueur, et élargissait l'horizon, mais en même temps montait de la vallée un brouillard opaque et jaune, une buée plus pénétrante et plus épaisse à mesure que le jour venait. C'était comme un voile entre la scène et les spectateurs. Il fallait renoncer aux gigantesques effets annoncés sur les guides. En revanche, les tournures hétéroclites des danseurs de la veille arrachés au sommeil se découpaient en ombres chinoises, falotes et cocasses. Des châles, des couvertures, jusqu'à des courtines de lit les recouvraient. Sous des coiffures variées, bonnets de soie ou de coton, capelines, toques, casquettes à oreilles, c'étaient des faces effarées, bouffies, des têtes de naufragés perdues sur un îlot en pleine mer, et guettant une voile au large de tous leurs yeux écarquillés. Et rien, toujours rien. Pourtant, certains s'évertuaient à distinguer des cimes dans un élan de bonne volonté, et tout en haut du belvédère, on entendait les gloussements de la famille péruvienne serrée autour d'un grand diable vêtu jusqu'aux pieds de son ulster à carreaux, qui détaillait imperturbablement l'invisible panorama des Alpes bernoises, nommant et désignant à voix haute les sommets perdus dans la brume. « Vous voyez à gauche le Finsterhorn, 4 275 mètres, le Schreckhorn, le Vetterhorn, le Moine, le Jungfrau, dont je signale à ces demoiselles les proportions élégantes. » « Ben vrai, en voilà un qui ne manque pas de toupet, » se dit le Tarasconnais. Puis à la réflexion, « Je connais cette voix, pas moins. » Il reconnaissait surtout l'accent, cet accent du midi qui se distingue de loin comme l'odeur de l'ail. Mais tout préoccupé de retrouver sa jeune inconnue, il ne s'arrêta pas, continua d'inspecter les groupes sans succès. Elle avait dû rentrer à l'hôtel, comme ils faisaient tous, fatiguée de rester à grelotter et à battre la semelle. Des dos ronds, des tartans dont les franges balayaient la neige s'éloignaient, disparaissaient dans le brouillard de plus en plus épaissi. Bientôt, il ne resta plus sur le plateau froid et désolé d'une aube grise que Tartarin et le joueur de cor des Alpes, qui continuait à souffler mélancoliquement dans l'énorme bouquin comme un chien qui aboie la lune. C'était un petit vieux à longue barbe, coiffé d'un chapeau tyrolien orné de glands verts lui tombant dans le dos, et portant comme tous les casquettes de service de l'hôtel, le Regina Montium en lettres dorées. Tartarin s'approcha pour lui donner son pourboire, ainsi qu'il l'avait vu faire aux autres touristes. Allons-nous coucher, mon vieux, dit-il, et lui tapant sur l'épaule avec sa familiarité tarasconnaise. Une fière blague, quel soleil du Rigi! Le vieux continua de souffler dans sa corne, achevant sa ritournelle trois notes avec un rire muet qui plissait le coin de ses yeux et secouait les glands verts de sa coiffure. Tartarin, malgré tout, ne regrettait pas sa nuit. La rencontre de la jolie blonde le dédommageait du sommeil interrompu, car, tout près de la cinquantaine, il avait encore le cœur chaud, l'imagination romanesque, un ardent foyer de vie. Remonté chez lui, les yeux fermés pour se rendormir, il croyait sentir dans sa main le petit soulier menu si léger, entendre les petits cris sautillants de la jeune fille. Est-ce vous, Manilov? Sonia, oh, quel joli nom! Elle était russe, certainement, et ces jeunes gens voyageant avec elle, des amis de son frère, sans doute. Puis tout se brouilla. Le joli minois frisé en or alla rejoindre d'autres visions flottantes et assoupies, pentes du Rigi, cascades en panache. Et bientôt le souffle héroïque du grand homme, sonore et rythmé, emplit la petite chambre et une bonne partie du corridor. Au moment de descendre, sur le premier coup du déjeuner, Tartarin s'assurait que sa barbe était bien brossée et qu'il n'avait pas trop mauvaise mine dans son costume d'alpiniste, quand tout à coup il tressaillit. Devant lui, grande ouverte et collée à la glace par deux pains à cacheter, une lettre anonyme étalait les menaces suivantes. Français du diable, ta défroque te cache mal. On te fait grâce encore ce coup-ci, mais si tu te retrouves sur notre passage, prends garde. Ébloui, il relut deux ou trois fois, sans comprendre. Mais à qui, à quoi prendre garde? Et comment cette lettre était-elle venue là? Évidemment pendant son sommeil, car il ne l'avait pas aperçue au retour de sa promenade au Roral. Il sonna la fille de service, une grosse face blafarde et plate, trouée de petites vérole, vraie panne gruyère, dont il ne put rien tirer d'intelligible, sinon qu'elle était de bonne famille et n'entrait jamais dans les chambres pendant que les messieurs, ils y étaient. Quelle drôle de chose, pas moins, disait Tartarin, tournant et retournant sa lettre, très impressionné. Un moment, le nom de Costecalde lui traversa l'esprit. Costecalde, instruit de ses projets d'ascension et essayant de l'en détourner par des manœuvres, des menaces. À la réflexion, cela lui parut invraisemblable. Il finit par se persuader que cette lettre était une farce. Peut-être les petites misses qui lui riaient au nez de si bon cœur. Elles sont si libres, ces jeunes filles anglaises et américaines. Le second coup sonnait, il cacha la lettre anonyme dans sa poche. Après tout, nous verrons bien. Et la moue formidable dont il accompagnait cette réflexion indiquait l'héroïsme de son âme. Nouvelle surprise en se mettant à table. Au lieu de sa jolie voisine qu'amour frise en or, il aperçut le coup de vautour d'une vieille dame anglaise dont les grands repentirs époussetaient la nappe. On disait tout près de lui que la jeune demoiselle et sa société étaient partis par un des premiers trains du matin. « Crénom, je suis floué !» fit tout haut le ténor italien, qui la veille signifiait si brusquement à Tartarin qu'il ne comprenait pas le français. Il avait donc appris pendant la nuit. Le ténor se leva, jeta sa serviette et s'enfuit, laissant le méridional complètement anéanti. Des convives de la veille, il ne restait plus que lui. C'est toujours ainsi, origicum, ou l'on ne séjourne guère que 24 heures. D'ailleurs, le décor était invariable, les compotiers en file séparant les factions. Mais ce matin, les riz triomphaient en grand nombre, renforcés d'illustres personnages, et les pruneaux, comme on dit, n'en menaient pas large. Tartarin, sans prendre parti pour les uns ni pour les autres, monta dans sa chambre avant les manifestations du dessert, boucla son sac et demanda sa note. Il en avait assez du Regina Montium et de sa table d'hôte de sourd-muet. Brusquement repris de sa folie alpestre au contact du piolet, des crampons et des cordes dont il s'était réaffublé, il brûlait d'attaquer une vraie montagne, au sommet dépourvu d'ascenseur et de photographie en plein vent. Il hésitait encore entre le Finsterhallerhorn plus élevé et la Jungfrau plus célèbre, dont le joli nom de Virginale Blancheur le ferait penser plus d'une fois à la petite Russe. En ruminant ses alternatives pendant qu'on préparait sa note, il s'amusait à regarder dans l'immense hall lugubre et silencieux de l'hôtel les grandes photographies coloriées accrochées aux murailles, représentant des glaciers, des pentes neigeuses, des passages fameux et dangereux de la montagne. Ici, des ascensionnistes à la file, comme des fourmis en quête sur une arête de glace blanche et bleue. Plus loin, une énorme crevasse aux parois glauques, en travers de laquelle on a jeté une échelle que franchit une dame sur les genoux, puis un abbé relevant sa soutane. L'alpiniste de Tarascon, les deux mains sur son piolet, n'avait jamais eu l'idée de difficultés pareilles. Il faudrait passer là, pas moins. Mais tout à coup, il pâlit affreusement. Dans un cadre noir, une gravure, d'après le dessin fameux de Gustave Doré, reproduisait la catastrophe du Mont Cervin. Quatre corps humains à plat ventre ou sur le dos, dégringolant la pente presque à pipe d'un névé, les bras jetés, les mains qui tâtent, se cramponnent, cherchent la corde rompue qui tenait ce collier de vie et ne sert qu'à les entraîner mieux vers la mort, vers le gouffre où le tas va tomber pêle-mêle avec les cordes, les piolets, les voiles verts, tout le joyeux attirail d'ascension devenu soudainement tragique. « Matin !» fit le Tarasconnais, parlant tout haut dans son épouvante. Un maître d'hôtel fort poli entendit son exclamation et crut devoir le rassurer. Les accidents de ce genre devenaient de plus en plus rares. L'essentiel était de ne pas faire d'imprudence et surtout de se procurer un bon guide. Tartarin demanda si on pouvait lui en indiquer un, là, de confiance. Ce n'est pas qu'il eût peur, mais cela vaut toujours mieux d'avoir quelqu'un de sûr. Le garçon réfléchit, l'air important, tortillant ses favoris. De confiance, ah, si monsieur m'avait dit ça plus tôt, nous avions ce matin un homme qui aurait bien été l'affaire, le courrier d'une famille péruvienne. Il connaît la montagne, fit Tartarin d'un air entendu. Oh, monsieur, toutes les montagnes de Suisse, de Savoie, du Tyrol, de l'Inde, du monde entier, il les a toutes faites, il les sait par cœur et vous les raconte, c'est quelque chose. Je crois qu'on le déciderait facilement. Avec un homme comme celui-là, un enfant irait partout sans danger. Mais où est-il? Où pourrais-je le trouver? Au Carlsbad, monsieur, où il prépare les chambres de ses voyageurs. Nous allons téléphoner. Un téléphone, Oiji? Ça, c'était le comble. Mais Tartarin ne s'étonnait plus. 5 minutes après, le garçon revint, rapportant la réponse. Le courrier des Péruviens venait de partir pour la Telschplatte, où il passerait certainement la nuit. Cette Telschplatte est une chapelle commémorative, un de ces pèlerinages en l'honneur de Guillaume Tell, comme on en trouve plusieurs en Suisse. On s'y rendait beaucoup pour voir les peintures murales qu'un fameux peintre balois achevait d'exécuter dans la chapelle. Par le bateau, il ne fallait guère plus d'une heure ou une heure et demie. Tartarin n'hésita pas. Cela lui ferait perdre un jour, mais il se devait de rendre cet hommage à Guillaume Tell, pour lequel il avait une prédilection singulière, et puis, quelle chance il pouvait saisir ce guide merveilleux, le décider à faire la Jungfrau avec lui. Allez, en route, et zou! Il paya vite sa note, où le coucher et le lever du soleil étaient comptés à part, ainsi que la bougie et le service, et toujours précédé de ce terrible bruit de ferraille qui semait la surprise et l'effroi sur son passage, il se rendit à la gare, car redescendre de Rigi à pied, comme il l'avait monté, c'était du temps perdu et vraiment faire trop d'honneur à cette montagne artificielle.
Chapitre 4. Il avait laissé la neige au Rigiculm. En bas, sur le lac, il retrouva la pluie, fine, serrée, indistincte, une vapeur d'eau à travers laquelle les montagnes s'estompaient, graduées et lointaines, en forme de nuages. Le Föhn soufflait, faisait moutonner le lac où les mouettes volant bas semblaient portées par la vague. On aurait pu se croire en pleine mer. Et Tartarin se rappelait sa sortie de Marseille 15 ans auparavant, lorsqu'il partit pour la chasse au lion. Ce ciel sans tache, ébloui de lumière blonde, cette mer bleue, mais bleue comme une eau de teinture, rebroussée par le mistral avec de blancs étincellements de saline, et les clairons des forts, tous les clochers en branle, ivresse, joie, soleil, féerie du premier voyage. Quel contraste avec ce pont noir de mouillure, presque désert, sur lequel se distinguaient dans la brume, comme derrière un papier huilé, quelques passagers vêtus d'holsters de caoutchouc informes, et l'homme de la barre immobile à l'arrière, tout encapuchonné dans son caban, l'air grave et sibyllin, au-dessus de cette pancarte en 3 langues, défense de parler au timonier. Recommandation bien inutile, car personne ne parlait à bord de Winkelried, pas plus sur le pont que dans les salons de première et de seconde, bondés de voyageurs aux mines lugubres, dormant, lisant, bâillant, pêle-mêle avec leurs menus bagages semés sur les banquettes. C'est ainsi qu'on se figure un convoi de déportés au lendemain d'un coup d'État. De temps en temps, le beuglement rauque de la vapeur annonçait l'approche d'une station. Un bruit de pas, de bagages remués traînait sur le pont. Le rivage sortait de la brume, s'avançait, montrant des pentes d'un vert sombre, des villas grelottant parmi les massifs inondés, des peupliers en file au bord de routes boueuses, le long desquelles de somptueux hôtels s'alignaient avec des lettres d'or sur leurs façades, hôtels Meyer, Müller, Dulac, et des têtes ennuyées apparaissant aux vitres ruisselantes. On abordait le ponton de débarquement, des gens descendaient, montaient, également crottés, trempés et silencieux. C'était sur le petit port un va-et-vient de parapluies et d'omnibus vite évanouis. Puis le grand battement des roues faisait mousser l'eau sous leurs palettes et le rivage fuyait, rentrait dans le vague paysage avec les pensions Meyer, Muller du lac, dont les fenêtres, un instant ouvertes, laissaient voir à tous les étages des mouchoirs agités, des bras tendus qui semblaient dire « Oh grâce, pitié, emmenez-nous, si vous saviez !» Parfois le Winkelried croisait au passage un autre vapeur avec son nom en lettres noires sur le tambour blanc. Germania, Guillaume Tell. C'était le même pont lugubre, les mêmes caoutchoucs miroitants, la même traversée lamentable que le vaisseau fantôme alla dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, les mêmes regards navrés échangés d'un bord à l'autre. Et dire que tous ces gens voyageaient pour leur plaisir et qu'ils étaient aussi captifs pour leur plaisir, les pensionnaires des hôtels du lac Meyer et Muller. Ici, comme au Ridgicoulm, ce qui suffoquait sur tout Tartarin, ce qui le navrait, le gelait encore plus que la pluie froide et le ciel sans lumière, c'était de ne pouvoir parler. En bas, il avait bien retrouvé des figures de connaissance, le membre du jockey avec sa nièce, l'académicien Stiréhu et le professeur Schwanthaler, ces deux implacables ennemis condamnés à vivre côte à côte pendant un mois arrivés au même itinéraire d'un voyage circulaire. Cook d'autres encore, mais aucun de ces illustres pruneaux ne voulait reconnaître le Tarasconnais, que son passe-montagne, ses outils de fer, ses cordes en sautoir distinguaient cependant, poinçonnaient d'une façon toute particulière. Tous semblaient honteux du bal de la veille, de l'entraînement inexplicable où les avait jeté la fougue de ce gros homme. Seule Madame Schwanzhaller était venue vers son danseur, avec sa mine toute rose et riante de petites fées boulottes, et prenant sa jupe de deux doigts comme pour esquisser un pas de menuet. « Ballir danzir très joli, disait la bonne dame. Était-ce un souvenir qu'elle évoquait ou la tentation de tourner encore en mesure? C'est qu'elle ne lâchait pas, et Tartarin, pour échapper à son insistance, remontait sur le pont, aimant mieux se tremper jusqu'aux os que d'être ridicule. Et il en tombait, et le ciel était sale. Pour achever de l'assombrir, toute une bande de l'armée du salut qu'on venait de prendre à Benkenried, une dizaine de grosses filles à l'air hébété, en robe bleu marine et chapeau greenaway, se groupaient sous trois énormes parapluies rouges et chantaient des versets, accompagnés sur un accordéon par un homme, une espèce de David Lagame, long, décharné, les yeux fous. Ses voix aiguës, molles, discordantes comme des cris de mouettes, roulaient, se traînaient à travers la pluie, la fumée noire de la machine que le vent rabattait. Jamais Tartarin n'avait entendu rien de si lamentable. À Brunnen, la troupe descendit, laissant les poches des voyageurs gonflées de petites brochures pieuses. Et presque aussitôt que l'accordéon et les chants de ces pauvres larves eurent cessé, le ciel se débrouilla et laissa voir quelques morceaux de bleu. Maintenant, on entrait dans le lac du Riz, assombri et resserré entre de hautes montagnes sauvages, et sur la droite, au pied du Silsberg, des touristes se montraient le champ de Grütli où Mellenthal, Fürst et Schaufracher firent le serment de délivrer leur patrie. Tartarin, très ému, se découvrit religieusement, sans prendre garde à la stupeur environnante, agita même sa casquette en l'air par trois fois pour rendre hommage aux mains des héros. Quelques passagers s'y trompèrent et poliment lui rendirent son salut. Enfin, la machine poussa un mugissement enroué, répercuté d'un écho à l'autre de l'étroit espace. L'écriteau qu'on accrochait sur le pont chaque station nouvelle, comme on fait dans les bals publics pour varier les contredanses, annonça tel splat. On arrivait. La chapelle est située à 5 minutes du débarcadère, tout au bord du lac, sur la roche même où Guillaume Tell sauta pendant la tempête de la barque de Gessler. Et c'était pour Tartarin une émotion délicieuse, pendant qu'il suivait le long du lac les voyageurs du circulaire Cook, de fouler ce sol historique, de se rappeler, de revivre les principaux épisodes du grand drame qu'il connaissait comme sa propre histoire. De tout temps, Guillaume Tell avait été un type. Quand, à la pharmacie Bézuquet, on jouait aux préférences et que chacun écrivait sous pli cacheté le poète, l'arbre, l'odeur, le héros, la femme qu'il préférait, un de ses papiers portait invariablement ceci « L'arbre préféré, le baobab. L'odeur, de la poudre. L'écrivain, Fenimore Cooper, ce que j'aurais voulu être, Guillaume Tell. » Et dans la pharmacie, il n'y avait qu'une voix pour s'écrier « C'est Tartarin !» Pensez, s'il était heureux et si le cœur lui battait, d'arriver devant la chapelle commémorative élevée par la reconnaissance de tout un peuple. Il lui semblait que Guillaume Tell, en personne, allait lui ouvrir la porte, encore trempé de l'eau du lac, son arbalète et ses flèches à la main.
« On n'entre pas, je travaille, c'est pas le jour !» cria de l'intérieur une voix forte doublée par la sonorité des voûtes.
« Monsieur Astier-Réhu de l'Académie française, Herr Doktor Professor Spanhaler,
Tartarin de Tarascon !»
Dans le gibe au-dessus du portail, le peintre, grimpé sur un échafaudage, parut presque à mi-corps en blouse de travail, la palette à la main.
Mon Famulus descend vous ouvrir, messieurs, dit-il avec une intonation respectueuse.
J'en étais sûr, pardi, pensa Tartarin, je l'avais qu'à me nommer. Toutefois, il eut le bon goût de se ranger et modestement n'entra qu'après tout le monde. Le peintre, gaillard superbe, la tête rutilante et dorée d'un artiste de la Renaissance, reçut ses visiteurs sur l'escalier de bois qui menait à l'étage provisoire, installé pour les peintures du haut de la chapelle. Les fresques représentant les principaux épisodes de la vie de Guillaume Tell étaient terminées, moins une, la scène de la pomme sur la place d'Alfort. Il y travaillait en ce moment, et son jeune Famulus, comme il disait, les cheveux à l'archange, les jambes et les pieds nus sous son sarrau Moyen-Âge, lui posait l'enfant de Guillaume Tell. Tous ces personnages archaïques, rouges, verts, jaunes, bleus, empilés plus haut que nature dans d'étroites rues, sous des poternes du temps et faits pour être vus à distance, impressionnait les beaux spectateurs un peu tristement, mais on était là pour admirer, et l'on admira. D'ailleurs, personne n'y connaissait rien. Je trouve cela d'un grand caractère, dit le pontifiant Astier-Réhu, son sac de nuit à la main.
Et Schwanzhaller, un pliant sous le bras, ne voulant pas être en reste, cita deux vers de Schiller, dont la moitié resta dans sa barbe de fleuve. Puis les dames s'exclamèrent, et pendant un moment on n'entendit que des « Schön, oh, schön, yes, lovely, est-ce que délicieux ?» On se serait cru chez le pâtissier. Brusquement une voix éclata, déchira d'une sonnerie de trompette le silence recueilli.
« Mal épaulé, je vous dis, cette arbalète n'est pas en place !» On se figure la stupeur du peintre en face de l'exorbitant alpiniste qui, le pic en main, le piolet sur l'épaule, risquant d'assommer quelqu'un à chacun de ses voltes nombreuses, lui démontrait par A plus B que le mouvement de son Guillaume Tell n'était pas juste. « Et je m'y connais, au moins, je vous prie de le croire. Vous êtes... Comment qui je suis ?» fit le Tarasconnais tout à fait vexé. Ce n'était donc pas devant lui que la porte avait cédé. Et redressant la taille, « Allez demander mon nom aux panthères du Zaccar, aux lions de l'Atlas. Ils vous répondront peut-être. » Il y eut une reculade, un effarement général. « Mais enfin, demanda le peintre, en quoi mon mouvement n'est-il pas juste ? Ah, regardez-moi, Et tombant en arrêt d'un double coup de talon qu'il fit fumer les planches, Tartarin, épaulant son piolet en arbalète, se campa. Superbe, il a raison. Oh, ne bougez plus. Puis au Famulus, vite, vite, un carton du fusain. Le fait est que le Tarasconnais était à peindre, trapu, le dos rond, la tête inclinée dans le passe-montagne en mentonnière de casque, et son petit œil flamboyant qui visait le Famulus épouvanté. Imagination, ô magie! Il se croyait sur la place d'Altorf en face de son enfant, lui qui n'en avait jamais eu. Une flèche dans le goulot de son arbalète, une autre à sa ceinture, pour percer le cœur du tyran. Et sa conviction devenait si forte qu'elle se communiquait autour de lui. « C'est Guillaume Tell !» disait le peintre accroupi sur un escabeau, poussant son croquis d'une main fiévreuse. « Ah, monsieur, que ne vous ai-je connu plus tôt ? Vous m'auriez servi de modèle. Vraiment, vous trouvez quelque ressemblance ?» fit Tartarin flatté, sans déranger la pose. « Oui, c'est bien ainsi que l'artiste représentait son héros. » La tête aussi, oh, la tête, peu importe. Le peintre s'écartait, regardait son croquis. Un masque viril, énergique, c'est tout ce qu'il faut, puisqu'on ne sait rien de Guillaume Tell, et que, probablement, il n'a jamais existé. De stupeur, Tartarin laissa tomber son arbalète. Outre, jamais existé ? Que dites-vous là ? Demandez à ces messieurs. Astiré eut, solennel, ses trois mentons sur sa cravate blanche. C'est une légende danoise. Islandische, affirma Schwanstaller non moins majestueux. Saxo Grammaticus raconte qu'un vaillant archer, appelé Taube ou Paltanoke, Ziz d'Inder Vigzagrug et Gribren, ensemble, fut condamné par le roi de Danemark, Harold, au dents bleues, Das der Islandische König Niding. L'œil fixe, le bras tendu, sans se regarder ni se comprendre, il parlait à la fois, comme en chair, de ce ton doctoral, despotique, du professeur sûr de n'être jamais contesté. Il s'échauffait, criant des noms, des dates. Justinger de Berne, Jean de Winterthur. Et peu à peu, la discussion devint générale, agitée, furieuse parmi les visiteurs. On brandissait les pliants, des parapluies, des valises. Et le malheureux artiste allait de l'un à l'autre, prêchant la concorde, tremblant pour la solidité de son échafaudage. Quand la tempête fut apaisée, il voulut reprendre son croquis et chercher le mystérieux alpiniste, celui dont les panthères du Zaccar et les lions de l'Atlas seuls auraient pu dire le nom. L'alpiniste avait disparu. Il grimpait maintenant, à grands pas furieux, un petit chemin, à travers des bouleaux et des hêtres, vers l'hôtel de la Teilsplatte, où le courrier des Péruviens devait passer la nuit, et sous le coup de sa déception, parlait tout haut, enfonçait rageusement son alpenstock dans la sente détrempée. « Jamais existé Guillaume Tell, Guillaume Tell une légende !» Et c'est le peintre chargé de décorer la Teilsplatte qui lui disait cela tranquillement. Oh, il lui en voulait comme un sacrilège. Il en voulait au savant, à ce siècle nieur, démolisseur impie, qui ne respecte rien, ni gloire, ni grandeur, coquin de sort. Ainsi, dans 200, 300 ans, lorsqu'on parlerait de Tartarin, il se trouverait des Astiérehus, des Schwanthaler, pour soutenir que Tartarin n'avait jamais existé, une légende provençale ou barbaresque. Il s'arrêta, suffoqué par l'indignation et la raide montée, et s'assit sur un banc rustique. On voyait de là le lac entre les branches, les murs blancs de la chapelle comme un mausolée neuf. Un mugissement de vapeur, avec le clapotis de l'abordage, annonçait encore l'arrivée de nouveaux visiteurs. Ils se groupaient au bord de l'eau, le guide en main, s'avançaient avec des gestes recueillis, des bras tendus qui racontaient la légende. Et tout à coup, par un brusque revirement d'idée, le comique de la chose lui apparut. Il se représentait toute la Suisse historique vivant sur ce héros imaginaire, élevant des statues, des chapelles en son honneur, sur les placettes des petites villes et dans les musées des grandes, organisant des fêtes patriotiques où l'on accourait, bannières en tête de tous les cantons, et des banquets, des toasts, des discours, des hurrahs, des chants, les larmes gonflant les poitrines, tout cela pour le grand patriote que tous savaient n'avoir jamais existé. Vous parlez de Tarascon, en voilà une tarasconnade, et comme jamais là-bas il ne s'en est inventé de pareil. Alors remis en belle humeur, Tartarin gagna en quelques solides enjambées la grande route de Fluelen, au bord de laquelle l'hôtel de la Teilsplatte étalait sa longue façade à volets verts. En attendant la cloche du dîner, les pensionnaires marchaient de long en large devant une cascade en rocaille, sur la route ravinée où s'alignaient des berlines, brancards à terre, parmi les flaques d'eau mirées d'un couchant couleur de cuivre. Tartarin s'informa de son homme. On lui apprit qu'il était à table. « Menez-moi vers lui, Zou !» Et ce fut dit d'une telle autorité que, malgré la respectueuse répugnance qu'on témoignait pour déranger un si important personnage, une servante mena l'alpiniste par tout l'hôtel où son passage souleva quelque stupeur, vers le précieux courrier, mangeant à part dans une petite salle sur la cour. « Monsieur, dit Tartarin en rentrant son piolet sur l'épaule, excusez-moi, si... » Il s'arrêta stupéfait, pendant que le courrier, long sec la serviette au menton dans le nuage odorant d'une assiettée de soupe chaude, lâchait sa cuillère. « Vé, monsieur Tartarin, t'es Bombard !» C'était Bombard, l'ancien gérant du cercle, bon garçon mais affligé d'une imagination fabuleuse qui l'empêchait de dire un mot le vrai et l'avait fait surnommer à Tarascon l'imposteur. Qualifié d'imposteur à Tarascon, jugez ce que cela doit être. Et voilà le guide incomparable, le grimpeur des Alpes de l'Himalaya, des monts de la Lune. « Oh, alors je comprends, fit Tartarin, un peu déçu mais joyeux, quand même, de retrouver une figure du pays et le cher, le délicieux accent du cours. Différemment, monsieur Tartarin, vous dînez avec moi, qu'est-ce ? » Tartarin s'empressa d'accepter, savourant le plaisir de s'asseoir à une petite table intime, deux couverts face à face, sans le bras de compotier litigieux, de pouvoir trinquer, parler en mangeant et en mangeant d'excellentes choses, soignées et naturelles, car messieurs les courriers sont admirablement traités par les aubergistes, servis à part, des meilleurs vins et des mets extra. Et il y en eut des au moins, pas moins, différemment. Alors, mon bon, c'est vous que j'entendais cette nuit là-haut sur la plateforme? Et parfaitement, je faisais admirer à ces demoiselles. C'est beau, pas vrai, le soleil levant sur les Alpes. Superbe, fit Tartarin, d'abord sans conviction pour ne pas le contrarier, mais emballé au bout d'une minute. Et c'était étourdissant d'entendre les deux Tarasconnais célébrer avec enthousiasme les splendeurs qu'on découvre du Rigi. On aurait dit Johan alternant avec Baedeker. Puis, à mesure que le repas avançait, la conversation devenait plus intime, pleine de confidences, d'effusions, de protestations, qui mettaient de bonnes larmes dans leurs yeux de Provence, brillants et vifs, gardant toujours en leur facile émotion une pointe de farce et de raillerie. C'est par là seulement que les deux amis se ressemblaient. L'un aussi sec, mariné, tanné, couturé de ses frosses spéciales aux grimes de profession, que l'autre était petit, rablé, de teint lisse et de sang reposé. Il en avait tant vu, ce pauvre Bombard, depuis son départ du cercle. Cette imagination insatiable qui l'empêchait de tenir en place l'avait roulé sous tant de soleil et de fortunes diverses. Et il racontait ses aventures, dénombrait toutes les belles occasions de s'enrichir qui lui avaient craqué là dans la main, comme sa dernière invention d'économiser au budget de la guerre la dépense des godillots. Savez-vous comment? Oh mon Dieu, c'est bien simple! En faisant ferrer les pieds des militaires! Outre, dit Tartarin épouvanté. Bompard continuait, toujours très calme, avec cet air fou à froid qu'il avait. Une grande idée, n'est-ce pas? Eh bien, au ministère, ils ne m'ont pas seulement répondu. Oh mon pauvre monsieur Tartarin! J'en ai eu de mauvais moments! J'en ai mangé du pain de misère avant d'être entré au service de la compagnie. La compagnie. Bompard baissa la voix discrètement. Chut, tout à l'heure, pas ici. Puis reprenant son intention naturelle, et autrement, vous autres, à Tarascon, qu'est-ce qu'on fait? Vous m'avez toujours pas dit ce qui vous amène dans nos montagnes. Ce fut à Tartarin de s'épancher, sans colère, mais avec cette mélancolie de déclin, cet ennui dont sont atteints en vieillissant les grands artistes, les femmes très belles, enfin tous les conquérants de peuple et de cœur. Il dit la défection de ses compatriotes, le complot tramé pour lui enlever la présidence et le parti qu'il avait pris de faire acte d'héroïsme, une grande ascension, la bannière tarasconnaise plus haut qu'on ne l'avait jamais plantée, de prouver enfin aux alpinistes de Tarascon qu'ils étaient toujours dignes, et qu'il était toujours et toujours digne. Alors l'émotion l'étreignait. Il dut se taire. Puis, vous me connaissez, Gonzague. Et rien ne saurait rendre ce qu'il mettait d'effusion, de caresses rapprochantes, dans ce prénom troubadouresque de Bompard. C'était comme une façon de serrer ses mains, de se le mettre plus près du cœur. Vous me connaissez, Kay, vous savez si j'ai boudé, quand il s'agit de marcher au Lion et pendant la guerre, quand nous avons organisé ensemble la défense du cercle. Bompard hocha la tête avec une mimique terrible et croyait y être encore. Eh bien, bon, ce que les lions, ce que les canons croupes n'avaient pu faire, les Alpes y sont arrivés. J'ai peur.
Oh, ne dites pas cela, Tartarin. Pourquoi ? Fit le héros avec une grande douceur. Je le dis parce que cela est. Et tranquillement, sans pause, il avoua l'impression que lui avait faite le dessein de Doré, cette catastrophe du Cervin restée dans ses yeux. Il craignait des périls pareils. Et c'est ainsi qu'entendant parler d'un guide extraordinaire capable de les lui éviter, il était venu se confier à lui. D'un ton le plus naturel, il ajouta « Vous n'avez jamais été guide, n'est-ce pas, Gonzague ?»« Eh si !» répondit Bompard en souriant. « Seulement, je n'ai pas fait tout ce que j'ai raconté. »« Bien entendu !» approuva Tartarin. Et l'autre entre ses dents, « Sortons un moment sur la route, nous serons plus libres pour causer. » La nuit venait, un souffle tiède, humide, roulait des flocons noirs sur le ciel où le couchant avait laissé de vagues poussières grises. Ils allaient à mi-côte dans la direction de Fluelen, croisant des ombres muettes de touristes affamés qui rentraient à l'hôtel, ombres eux-mêmes sans parler jusqu'au long tunnel qui coupe la route, ouvert de baies en terrasse du côté du lac. Arrêtons-nous ici, entonna la voix creuse de Bompard, qui résonna sous la voûte comme un coup de canon. Et assis sur le parapet, ils contemplèrent l'admirable vue du lac, des dégringolades de sapins et de hêtres, noirs, serrés en premier plan, derrière des montagnes plus hautes, aux sommets en vagues, puis d'autres encore, d'une confusion bleuâtre, comme des nuées. Au milieu, la traînée blanche, à peine visible d'un glacier figé dans les creux, qui tout à coup s'illuminait de feux irisés, jaunes, rouges, verts. On éclairait la montagne de flammes de Bengale. De Fluelen, des fusées montaient, s'égrenaient en étoiles multicolores, et des lanternes vénitiennes allaient, venaient sur le lac, dont les bateaux restaient invisibles, promenant de la musique et des gens de fête. Un vrai décor de féerie, dans l'encadrement des murs de granit, réguliers et froids du tunnel. « Quel drôle de pays, pas moins que cette Suisse !» s'écria Tartarin. Bompard se mit à rire. « Ah oui, la Suisse !» D'abord, il n'y en a pas de Suisse. Chapitre 5. La Suisse, alors qu'il est levé, M. Tartarin, n'est plus qu'un vaste cursal, ouvert de juin en septembre, un casino panoramique, où l'on vient se distraire des quatre parties du monde et qu'exploite une compagnie richissime à centaines de millions de milliards qui a son siège à Genève et à Londres. Il en fallait de l'argent, figurez-vous bien, pour enfermer, peigner, pomponner tout ce territoire, lacs, forêts, montagnes et cascades, entretenir un peuple d'employés, de comparses, et sur les plus hautes cimes, installer des hôtels mirobolants avec gaz, télégraphe, téléphone. C'est pourtant vrai, songe tout au Tartarin qui se rappelle le Rigi. « Si c'est vrai, mais vous n'avez rien vu. Avancez un peu dans le pays, vous ne trouverez pas un coin qui ne soit truqué, machin comme les dessous de l'opéra. Des cascades éclairées à Giorno, des tourniquets à l'entrée des glaciers, et pour les ascensions, des tas de chemins de fer hydrauliques ou funiculaires. Toutefois, la compagnie, songeant à sa clientèle d'anglais et d'américains grimpeurs, garde à quelques Alpes fameuses, la Jungfrau, le Moine, le Finsterhorn, leur apparence dangereuse et farouche bien qu'en réalité, il n'y ait pas plus de risque là qu'ailleurs. Pas moins, les crevasses bonbons, ces horribles crevasses, mais si vous tombez dedans... Quand vous tombez sur la neige, monsieur Tartarin, et vous ne vous faites pas de mal. Il y a toujours en bas, au fond, un portier, un chasseur, quelqu'un qui vous relève, vous brosse, vous secoue et gracieusement s'informe. Monsieur n'a pas de bagage? Oh, qu'est-ce que vous me chantez là, Gonzague? Et bon pas, redoublant de gravité. L'entretien de ces crevasses est une des plus grosses dépenses de la compagnie. Un moment de silence sous le tunnel dont les environs sont accalmis. Plus de feux variés, de poudre en l'air, de barques sur l'eau. Mais la lune s'est levée, fait un autre paysage de convention, bleuâtre, fluidique, avec des pans d'une ombre impénétrable. Tartarin hésite à croire son compagnon sur parole. Pourtant, il réfléchit à tout ce qu'il a vu déjà d'extraordinaire en 4 jours, le soleil du Rigi, la farce de Guillaume Tell, et les interventions de Bompard lui paraissent d'autant plus vraisemblables que dans tout Tarasconnais, le hableur se double d'un gobeur. Mais différemment, mon bon ami, comment expliquez-vous ces catastrophes épouvantables, celle du Cervin, par exemple? Oh, il y a 16 ans de cela, la compagnie n'était pas constituée, monsieur Tartarin. Mais l'année dernière encore, l'accident du Wetterhorn, ces deux guides ensevelis avec leurs voyageurs. Hey, le Fobiente, pardi, pour amorcer les alpinistes. Une montagne où l'on ne s'est pas un peu cassé la tête, les Anglais n'y viennent plus. Le Wetterhorn périclitait depuis quelque temps, avec ce petit fait divers, les recettes ont remonté tout de suite. Alors les deux guides, ils se portent aussi bien que les voyageurs. On les a seulement fait disparaître, entretenus à l'étranger pendant 6 mois. Une réclame qui coûte cher, mais la compagnie est assez riche pour s'offrir cela. Oh, écoutez, Gonzague, Tartarin s'est levé une main sur l'épaule de l'ancien gérant. Vous ne voudriez pas qu'il m'arrive un malheur, eh bien, parlez-moi franchement. Vous connaissez mes moyens comme alpiniste, ils sont médiocres. Très médiocres, c'est vrai. Pensez-vous cependant que je puisse, sans trop de danger, tenter l'ascension de la Jungfrau? J'en répandrai ma tête dans le feu, monsieur Tartarin. Vous n'avez qu'à vous fier au guide, mais... Et si je le vertige? Fermez les yeux. Et si je glisse? Mais laissez-vous faire, c'est comme au théâtre. Il y a des praticables, on ne risque rien. Ah, si je vous avais là pour me le dire, pour me le répéter. Alors, mon brave, un bon mouvement, venez avec moi. Bon, part, on ne demanderait pas mieux, Pécaïre, mais il a ses Péruviens, sur les bras, jusqu'à la fin de la saison. Et comme son ami s'étonne de lui voir accepter ses fonctions de courrier, de subalterne. Que voulez-vous, monsieur Tartarin? C'est dans notre engagement, la compagnie a le droit de nous employer comme bon lui semble. Et le voilà comptant sur ses doigts tous ses avatars divers depuis 3 ans. Guide dans l'Oberland, joueur de corps des Alpes, vieux chasseur de chamois, ancien soldat de Charles X, pasteur protestant sur les hauteurs. « Quesaco ?» demande Tartarin surpris. Et l'autre, de son air tranquille, « Mais oui, quand vous voyagez dans la Suisse allemande, des fois vous apercevez à des hauteurs vertigineuses un pasteur prêchant en plein air, debout sur une roche ou dans une chaire rustique en tronc d'arbre. Quelques bergers fromagers à la main leur bonnet de cuir, des femmes coiffées, costumées selon le canton, se groupent autour avec des poses pittoresques. Et le paysage est joli. » Des pâturages verts ou frais moissonnés, des cascades jusqu'à la route, et des troupeaux aux lourdes cloches sonnant à tous les degrés de la montagne. Tout ça, c'est du décor. de la figuration. Seulement, il n'y a que les employés de la compagnie, guides, pasteurs, courriers, hôteliers, qui soient dans le secret. Et leur intérêt est de ne pas les bruiter de peur d'effaroucher la clientèle. L'alpiniste reste abasourdi, muet, le comble chez lui de la stupéfaction. Au fond, quelques doutes qu'il ait de la véracité de Bompard, il se sent rassuré et plus calme sur les ascensions alpestres, et bientôt l'entretien se fait joyeux. Les deux amis parlent de Tarascon, de leur bonne partie de rire d'autrefois, quand on était plus jeune. À propos de Galéjade, dit subitement Tartarin, ils m'en ont fait une bien bonne au Rigiculm. Figurez-vous que ce matin, et il raconte la lettre piquée à sa glace et la récite avec emphase. Français, le diable, c'est une mystification, qui. Bon, on ne sait pas, peut-être, dit Bompard, qui semble prendre la chose plus sérieusement que lui. Il s'informe si Tartarin, pendant son séjour au Rigi, n'a eu d'histoire avec personne, n'a pas dit un mot de trop. Ah ouais, y a un mot de trop. Est-ce qu'on ouvre seulement la bouche avec tous ces Anglais, Allemands muets comme des carpes, sous prétexte de bonne tenue? À la réflexion, pourtant, il se souvient d'avoir rivé son clou et vertement à une espèce de cosaque, un certain Milanov. Manilov, corrige Bompard. Ah, vous le connaissez? De vous en moi, je crois que ce Malinov m'en voulait à cause d'une petite Russe. Ouais, Sonia, murmure Bompard soucieux. Vous la connaissez aussi? Ah, mon ami, la perle fine, le joli petit perdreau gris. Sonia de Vassiliev. C'est elle qui a tué d'un coup de revolver en pleine rue le général Felianin, le président du conseil de guerre qui avait condamné son frère à la déportation perpétuelle. Sonia, assassin, cet enfant, cette blondinette, Tartarin ne veut y croire. Mais Bompard précise, donne des détails sur l'aventure du reste bien connue. Depuis 2 ans, Sonia habite Zurich, où son frère Boris, échappé de Sibérie, est venu la rejoindre, la poitrine perdue, et tout l'été, elle le promène au bon air dans la montagne. Le courrier les a souvent rencontrés, escortés d'amis, qui sont tous des exilés, des conspirateurs. Les Vassiliev, très intelligents, très énergiques, ayant encore quelques fortunes, sont à la tête du parti nihiliste avec Bolibine, l'assassin du préfet de police, et ce Manilov qui, l'an dernier, a fait sauter le palais d'hiver. Bouffré, dit Tartarin, on en a de drôles de voisins, Origi. Mais en voilà bien une autre. Bompard ne va-t-il pas s'imaginer que la fameuse lettre est venue de ces jeunes gens? Il reconnaît les procédés nihilistes. Le tsar, tous les matins, trouve de ses avertissements dans son cabinet sous sa serviette. Mais enfin, dit Tartarin en pâlissant, pourquoi ces menaces? Qu'est-ce que je leur ai fait? Bompard pense qu'on l'a pris pour un espion. Un espion, moi? Mais oui! Dans tous les centres nihilistes, à Zurich, à Lausanne, Genève, la Russie entretient à grands frais une nombreuse surveillance. Depuis quelque temps même, elle a engagé l'ancien chef de la police impériale française avec une dizaine de Corses qui suivent et observent tous les exilés russes, se servent de 1000 déguisements pour les surprendre. La tenue de l'alpiniste, ses lunettes, son accent... Il n'en fallait pas plus pour le confondre avec un de ses agents. « Qu'aucun sort, vous m'y faites penser, » dit Tartarin. Ils avaient tout le temps sur leurs talons un sacré ténor italien. Ça doit être un mouchard, bien sûr. Différemment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben avant tout, ne plus vous trouver sur le chemin de ces gens-là, puisqu'on vous prévient qu'il vous arriverait malheur. Vaille malheur, le premier qui m'approche, je lui ferai la tête avec mon piolet. Et dans l'ombre du tunnel, les yeux du Tarasconnais s'enflamment. Mais bon, par moins rassuré que lui, c'est que la haine de ces nihilistes est terrible, s'attaque en dessous, creuse et trame. On a beau être un lapin comme le président, allez donc vous méfier du lit d'auberge où l'on couche, de la chaise où l'on s'assied, de la rampe de paquebot qui cédera tout à coup pour une chute mortelle, et les cuisines préparées, le verre enduit d'un poison invisible. Prenez garde aux kirsches de votre gourde, au lait mousseux que vous apporte le cocher en sabot. Il ne recule devant rien, je vous dis. Alors quoi, je suis fichu, gronde Tartarin. Puis saisissant la main de son compagnon, conseillez-moi, Gonzague. Après une minute de réflexion, Bompard lui trace son programme. Partir le lendemain de bonne heure, traverser le lac, le col de Brunig, coucher le soir à Interlaken. Le jour suivant, Grindenwald et la petite Scheidegg. Le surlendemain, la Jungfrau. Puis en route pour Tarascon, sans perdre une heure, sans se retourner. Je partirai demain, Gonzague, fait le héros d'une voix mâle avec un regard d'effroi au mystérieux horizon que recouvre la pleine nuit, au lac qui semble receler pour lui toutes les trahisons dans son calme glacé de pâles reflets.